Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, c'est déjà presque une habitude, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Aux marges du territoire, une série de Julie Gacon, réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a des entre-deux, des confins qui sont des commencements, autant que des fins, des lieux familiers et pourtant étrangers de ces territoires qui mordent les uns sur les autres et que l'histoire a enchevêtrés, que l'usage rend hybride. Des endroits qui sont des frontières administratives où l'on traque les migrants, autant que des territoires d'enfance. Des lieux indéterminés, à statut particulier, où la prostitution a pu s'installer. Des lignes imaginaires qui sont pourtant parfois la limite réelle entre la mort et la survie, ou simplement un lac qui sépare le pays où l'on vit de celui où l'on travaille. Pour commencer, les personnages, des frontaliers qui prennent le bateau chaque matin pour rejoindre la Suisse, une journaliste à l'accent toulousain qui scrute la société locale, un écrivain qui rêve la frontière, un maire épanoui, des marins d'eau douce et des capitaines au tout petit cours. Ensuite le décor. Des bateaux, comme des autobus sur le lac, des quais, des débarcadères, des retardataires qui courent, une mairie avec vue sur le lac, une rive française, une rive suisse, des bancs publics et des atmosphères de fin de journée. On est en France et en Suisse, ou plutôt sur l'eau, on a vue sur le Mont Blanc et on traverse le lac Léman.
Alors quand on ouvre la grande porte-fenêtre de votre bureau, monsieur le maire, ça donne quoi ?
Le lac. Un vrai lac.
Est-ce qu'il y a des faux lacs ?
Il y a des petits lacs. Ce qu'on dit en patois chez nous, c'est des gouttes d'eau, comme le lac d'Annecy. Mais là, c'est un vrai lac. On a tous les poissons, on a du brochet, de la perche, de l'ombre chevalier, de la truite fario. On a quand même encore, sur la rive du lac français, 52 professionnels qui vivent de la pêche.
Et entre pêcheurs français et pêcheurs suisses, il n'y a pas parfois des conflits de canne à pêche ?
Non, même pas. Vous savez, parce que c'est ce que j'avais dit un jour au préfet, quand il avait interdit l'ombre chevalier, les grands ombres chevaliers, parce qu'il trouvait qu'il y avait du mercure. J'ai dit, il faudra m'expliquer comment, quand ils passent la frontière, puisqu'en Suisse, ça n'avait pas été interdit, comment ils font quand ils passent la frontière pour savoir qui c'est qui a du mercure ou pas. Alors, il y a eu des conflits sur les mailles de filet. On a mis 15 ans. Parce que les mailles de filet étaient calculées par les Suisses par le côté du carré, les Français par la diagonale. Donc ça a duré 10 ans pour avoir un accord. Mais on l'a eu.
Jeu de frontière entre la France et la Suisse. Julie Gacon, Yvon Croisier.
Entre la France et la Suisse, un lac en guise de frontière. Le Léman, que survolent comme des libellules ailées des hélicoptères dont on imagine qu'ils appartiennent aux richissimes exilés fiscaux qui ont choisi le paradis helvétique pour cacher leurs magots. Entre Évian et Lausanne, des bateaux, en guise de navettes, sortent d'autobus lacustres pour ces travailleurs frontaliers qui chaque jour traversent le lac pour rejoindre leur travail, cédant discrètement aux sirènes du marché de l'emploi et d'un franc suisse aussi fort et haut que le Mont Blanc qui veille comme une sentinelle sur cet étrange balai.
La Suisse semble plate. Pile en face de la France, juste derrière le lac Léman qui forme une frontière naturelle entre les deux pays, les courbes de la terre sont mal dessinées, comme hésitantes. On y distingue un peu de vert, quelques lointains immeubles et puis c'est tout. L'inconnu à l'horizon.
Marie Maurice, dans le premier chapitre de votre livre Bienvenue au paradis, paru chez Stock très récemment. Vous expliquez que certains bateaux de la Compagnie Générale de Navigation, comme le Général Guizan, ont été construits dans les années 60. En fait, il y a toujours eu des Français pour traverser ce lac Léman et aller travailler en Suisse.
C'est un phénomène historique qui date de très longtemps. Les Français ont toujours passé cette frontière pour aller travailler en Suisse, notamment dans le secteur de l'horlogerie. Ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'ils sont beaucoup, 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 beaucoup plus nombreux à le faire qu'avant, parce que la Suisse s'est ouverte à la libre circulation en 2009, et ça a tout changé, parce qu'avant, le frontalier devait avoir un permis spécial pour aller travailler en Suisse, il devait montrer patte blanche, entre guillemets, se faire accepter, valider par les autorités suisses. Ils n'avaient pas le droit d'y rester trop longtemps. Il y avait tout un tas de règles très contraignantes. Quelques Français travaillaient en Suisse, c'était connu, mais c'était souvent le fait de Français qui avaient grandi en Haute-Savoie ou dans l'Aisne, dans les régions frontalières, et qui connaissaient un peu le système et puis les règles. Depuis début 2009, beaucoup, beaucoup plus de Français se sont mis à le faire et à passer cette frontière quotidiennement. Aujourd'hui, on compte à peu près 200 000 frontaliers français qui travaillent en Suisse, et ce chiffre a énormément augmenté depuis une dizaine d'années.
Alors, je vous parle d'il y a 50 ans, il y avait des bateaux que le mardi et le vendredi, après c'est venu tous les jours. À l'heure actuelle, le premier bateau est à 5h30 pour les frontaliers, 6h30, 7h, 8h. Donc il y a un flux qui est important avec les vieux bateaux de la CGN, et je suis à 783 000 passagers annuels. Avant d'ouvre.
Marc Francina, maire d'Évian. C'est vrai que vous êtes le maire d'une ville frontière hors Schengen.
Hors Schengen, oui, absolument. Bon, il n'y a plus de douaniers, il n'y a plus rien, mais bon, ça peut se remettre à tout moment. Hein.
Elle est où la frontière? Est-ce qu'on la voit de votre
bureau? Non, il n'y a pas de borne et il n'y a pas de douaniers au milieu. Non, on est à... Oh, disons, il y a 13 km entre Évian-Lausanne, donc la frontière, elle doit être à 5 km.
Daniel de Roulet, racontez-nous votre lac.
Bon, vous savez, c'est pas mon lac. Il n'y a qu'une petite partie que j'aime beaucoup. C'est la partie quand il devient tout étroit dans les deux bouts, c'est-à-dire quand le Rhône entre dans le lac et quand il en ressort. Il y a même un espèce de phénomène dans l'eau qui s'appelle la bataillère. C'est le moment où l'eau du Rhône entre dans ce lac et il se bataille contre l'inertie de ce lac. C'est quand même le plus grand d'Europe et puis c'est à côté de la plus haute montagne d'Europe qui est le Mont Blanc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois sur la Savoie, à la fois sur le canton de Vaud, sur le canton du Valais, le canton de Genève, enfin bref, il appartient un peu à tout le monde. Après, c'est devenu une espèce de truc romantique, ça c'est la faute à Rousseau, enfin on est bien content qu'il ait été là, mais... Voilà, c'est ce lac romantique et finalement c'est une espèce de lac touristique. Or, il y a toujours encore une fonction économique et puis on a vu pendant les guerres que c'est une frontière assez terrible, quoi. Donc ce lac, c'est aussi une frontière politique. Même si on fait croire qu'il y a une ligne au milieu de ce lac, une ligne très précise, puis qu'en fait, elle est nulle part, quoi. C'est fluide. On peut pas dire ça, c'est de l'eau qui appartient à la France, ça, c'est de l'eau qui appartient à la Suisse. C'est ridicule.
Dans votre livre « Nationalité frontalière », Daniel de Roulet, vous écrivez que de Suisse, le lac Léman ressemble à un berceau.
Oui, c'est un berceau qui est tenu aux deux bouts par le Rhône. Et puis, dans l'autre sens, c'est une banane. C'est la banane bleue, voilà, parce que quand on le regarde sur une carte. Et puis, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, on voit un autre pays. Vous savez, la Suisse est assez claustrophobe. Hein. Alors que là, voilà, on voit l'autre côté, on voit des gens qui... Même s'ils parlent la même langue que nous, ils ont un autre système politique, ils réfléchissent d'une autre manière. Alors ça arrange les patrons suisses d'un côté, ça arrange peut-être aussi le gouvernement français de un peu écluser, chercher des postes de travail ailleurs. Mais c'est vrai que les frontaliers, par exemple sur Genève, sont 90 000 qui viennent chaque jour sur le canton de Genève et qui ils viennent tous... pas pour aller à l'école ou à l'université, ils viennent pour travailler.
Bonjour, je voudrais deux tickets aller-retour pour Lausanne-Flon avec le métro.
Deux billets.
Voilà.
C'est 100 euros. Suisse.
84. Et voici les billets.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Et ben là, il y a un peu de brume, donc on voit pas grand chose. On navigue au radar. Et puis nous, on a notre destination, Lausanne Ouchy.
Ouchy, c'est le port de débarquement à Lausanne.
On va, oui. Voilà, la frontière, elle est estimée à peu près au milieu du lac.
Donc là, on y est, à peu près.
Pas tout à fait, non. Dans quelques minutes.
Donc dans quelques minutes, on sera chez vous.
À peu près un quart d'heure, ouais.
Vous êtes suisse.
Oui, ouais.
Et tous les jours, vous transportez des Français qui viennent travailler en Suisse, mais est-ce que vous transportez aussi des Suisses qui viennent travailler en France?
Alors, il y en a très peu, c'est rare.
Vous aussi, monsieur, qui lisez le journal, vous êtes capitaine ici?
Oui, sauf que moi, j'habite en France.
Et quand un Suisse et un Français sont dans un bateau?
Il n'y a pas de problème. On cohabite très bien, hein. Il n'y a pas de souci. D'une part, je ne suis même pas français, je suis d'origine espagnole, mais j'habite en France et je travaille en Suisse. La compagnie est suisse, mais elle emploie pas mal de Français. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de frontière, en fait. Je me considère européen à part entière. Et puis, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, tous les gens qui habitent dans cette région voyagent d'un côté et de l'autre sans trop faire cas des frontières, en fait.
Vous êtes toujours à l'heure?
Toujours. Montre suisse. Elle a une bonne réputation, ouais, c'est clair, ouais.
Marie-Maurice, tous ces Français qui choisissent d'aller travailler en Suisse, a priori, ont une bonne raison de le faire.
C'est vrai que les salaires en Suisse sont à peu près, en moyenne, 3 fois plus élevés qu'en France. Quand on est un instituteur en Suisse, on gagne normalement autour des 5000 francs, donc un petit peu moins en euros. Les coiffeuses tournent autour des 4000 francs en général, ce qui correspond à 3800 euros à peu près. Donc tout ça, ça fait rêver. En vérité, beaucoup de frontaliers de Français que j'ai rencontrés sont venus d'abord par nécessité. C'était des gens qui ne s'en sortaient pas avec un salaire très bas dans leur métier, qui étaient au chômage. Ou qui se sentaient vraiment dévalorisés dans leur poste de travail en France et qui ont trouvé en Suisse une opportunité d'évolution incroyable ou même tout simplement de quoi vivre.
La Suisse n'a pas toujours été ce pays en pleine expansion économique, comme vous dites, capable d'accueillir autant de travailleurs de pays voisins.
On l'a beaucoup oublié, mais la Suisse a été un pays extrêmement pauvre. C'est un pays qui a peu de ressources naturelles facilement exploitables. Il y a beaucoup de montagnes. Donc les Suisses sont historiquement des paysans, très travailleurs, qui ont dû, à la sueur de leur front, cultiver leurs champs, survivre dans des milieux hostiles à des milliers de mètres d'altitude. C'est quelque chose qui a marqué profondément la culture helvétique et qui aujourd'hui encore a son importance parce que presque du jour au lendemain, la Suisse est devenue un pays riche. Le tournant s'est fait évidemment avec les guerres mondiales et puis le statut neutre de ce pays qui a réussi à faire valoir son contexte de paix, sa stabilité politique, la compétence de ses banquiers et grâce à ça notamment le pays a réussi à sortir du lot et est entré dans une phase de développement incroyable qui fait qu'aujourd'hui la Suisse est l'un des pays les plus riches au monde.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à Lausanne Ouchy, prochain arrêt Lausanne Ouchy. Nous vous souhaitons une très bonne journée, merci.
Bon.
Merci, pareillement. Au revoir, merci. Bonne journée. Merci.
Au revoir,
bonne journée.
Alors, on s'est assis sous un platane, sur un banc au bord du lac Léman. On a essayé d'éviter les nids de corneilles, parce qu'il y en a beaucoup par ici. Le jardinier a activé son jet d'eau. Et vous, James Picot, vous êtes arrivé par le bateau de 5h40 ce matin.
Oui.
Qu'est-ce qu'on voit depuis le bateau de 5h40?
Alors ça dépend des jours, mais on a un panorama privilégié puisque on a, suivant où on est placé, soit on a la vue sur le bout du lac et sur les Alpes, sur les préalpes suisses, soit on a une vue sur le balcon des Mémises ou la Dandoche qui est côté français, le Jura sur la gauche, et puis on n'a vraiment jamais le même panorama suivant les saisons, suivant les jours. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu brumeux, ce qui donne aussi un cachet parce qu'il y a le soleil, la brume, donc on a...
Bon, vous en profitez avant de vous engouffrer dans vos bureaux. James Picot du CHU de Lausanne, vous travaillez à l'hôpital, à la direction des achats. Depuis combien de temps vous travaillez sur Suisse, comme on dit ici?
Alors, je suis arrivé en Suisse en fin d'année 93. Je suis arrivé là par une rencontre. J'ai suivi mon épouse qui est suissesse. Et puis, je me suis installé à Lausanne. Et après, nous avons déménagé sur Évian.
La vie en Suisse devenait trop chère?
Alors la vie en Suisse est effectivement plus chère. Il y a c'est deux mentalités différentes. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'immobilier, c'était plus facile à l'époque pour nous de trouver ce que l'on recherchait côté français. Et puis ouais, c'est là-bas qu'on avait décidé de poser nos valises et nous installer.
Qu'est-ce qui vous paraît si différent dans ces deux mentalités ?
La Suisse est un pays assez remarquable sur la qualité de vie en général. La qualité de vie au travail est vraiment très très bien. Les gens sont posés, c'est toujours souvent empreint de bon sens. On a facilité de discussion, tout le monde est à l'écoute. On est plus tranquille sur la vie professionnelle, je pense. On ressent moins de stress que l'on peut le rencontrer en France, je pense.
Vous êtes beaucoup de Français à l'hôpital de Lausanne ?
Oui, je pense qu'il y a passablement de Français à l'hôpital de Lausanne, dans les soins plus particulièrement, puisque la Suisse forme des soignants, mais peut-être dans un nombre insuffisant, donc ils vont beaucoup chercher à l'étranger. Il est clair que quand on fait ces études d'infirmier à Thonon et qu'on commence à travailler dans les hôpitaux de la région, la tentation est grande, s'il y a une opportunité, de venir travailler... côté suisse, financièrement, c'est intéressant.
Marc Francina, comment, en tant que maire d'Évian, comment vous regardez tous les matins tous ces Français aller offrir leur force, leur énergie, leur capacité de travail et leur bagage intellectuel à un autre pays?
Mais vous savez, c'est quand même une chance d'avoir des frontaliers, parce que c'est un niveau de vie qui est supérieur à ceux des Français. Je pense que c'est une chance qu'on a. Le problème, c'est que ce qui fait que c'est un peu dur pour nos entreprises locales, c'est qu'ils nous absorbent la main-d'œuvre. La main-d'œuvre médicale, les aides-soignantes, elles partent toutes en Suisse. L'informatique, même les artisans. Un artisan en électricité, il se fait 4 000 francs suisses, ici, il se fait 2 000 euros. Donc, il y a une attraction. Alors, ce que je dis toujours, c'est pourvu que ça dure. Mais ça dure déjà depuis longtemps, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de toute la France travailler ici.
Mais est-ce que, de la même manière qu'après la Seconde Guerre mondiale, la France est allée chercher sa main-d'œuvre, notamment en Afrique du Nord, la Suisse a, depuis des années, fait cette démarche de venir chercher les Français chez eux?
Bon, ils ne sont pas venus chercher les Français. C'est les Français qui ont été travailler chez eux. Il ne faut pas rêver. C'est l'attractivité. C'est le coût du franc suisse. Moi, j'ai connu le franc suisse en 1963. Je travaillais déjà dans une banque. Il était à 0,83 centimes, le franc suisse, par rapport à un franc français. Maintenant, vous voyez où on en est. Et le franc suisse n'a jamais diminué. Puis le franc suisse, c'est le coffre-fort du monde.
Un franc suisse égale à peu près aujourd'hui 1 euro.
Alors c'est vrai qu'au niveau du droit du travail, le matin, on peut vous dire, vous nous rendez les clés de la voiture, vous rendez votre ordinateur, c'est fini. C'est vrai. C'est un choix. Mais vous savez, l'autre jour, j'ai un de mes collègues députés qui avait amené le code du travail français, qui devait faire 20 cm de haut, et le code du travail suisse qui faisait 3,5 cm. Mais bon, c'est un choix, c'est un risque.
Avant, pour être accepté comme Français en Suisse et comme frontalier, on devait exercer dans des secteurs qui avaient vraiment un manque de main-d'œuvre criant. On était sélectionné, il y avait des quotas migratoires assez stricts. Aujourd'hui, depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation entre la Suisse et les pays de l'Union européenne, ces quotas ont complètement disparu. Et ça, ça a permis à beaucoup de Français formés dans d'autres secteurs ou non formés ou peu formés de venir chercher du travail en Suisse. Donc avant, la Suisse recrutait spécifiquement beaucoup d'ingénieurs, des médecins, des chirurgiens, des horlogers, des gens avec des formations très techniques et très pointues. Aujourd'hui, les Français sont aussi actifs en Suisse dans les services. Il y a beaucoup de secrétaires, d'assistantes médicales, tout ce qui est coiffure, vendeurs dans les magasins d'habits, d'alimentation. Et puis dans tout le secteur du bâtiment, les Français sont très nombreux, très recherchés. Donc c'est vraiment tout le monde pour tous les salaires et dans des métiers un peu d'artisanat, technique ou même de service.
Bonjour, voilà, je m'appelle Jobard Sébastien et je prends le bateau tous les jours.
Alors ça fait combien de temps que vous êtes grutier en Suisse ?
Ça fait pas très longtemps, ça fait environ 3 ans. J'étais 2 ans et demi intérimaire et là ça fait depuis le mois de septembre que je suis embauché.
Vous avez eu un CDI alors ?
Ouais, voilà, mais après, un CDI suisse n'équivaut pas à un CDI français. On peut être licencié très facilement, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de motif. C'est beaucoup plus simple, il y a moins d'administratif et tout ça.
Vous venez d'où ?
Je viens de la région du Choletais, dans les Pays de Loire.
Dans le Maine-et-Loire ?
Voilà, dans le Maine-et-Loire.
Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à venir travailler en Suisse ?
Ce qui m'a décidé à venir travailler en Suisse, je suis venu plusieurs fois en vacances en Romandie, en Suisse. Et le pays en lui-même, la Suisse, m'intéressait parce que c'est un pays qu'on parle très peu, c'est un pays qui est entouré de l'Europe et je pense qu'il y a des choses à découvrir dans ce pays. Pour exemple, ici c'est une vraie démocratie, c'est une démocratie directe et... les gens ici peuvent voter leurs lois et tout ça, quoi.
Et donc, sur un coup de tête, vous vous êtes dit, allez, je franchis le lac Léman.
Tout à fait, c'est à peu près ça, ouais. Voilà. Au début, j'ai travaillé sur France, quoi, à Annemasse et à Evian, mais j'avais déjà prospecté pour la Suisse et dès que j'ai trouvé une opportunité, j'ai foncé.
Ici, on dit travailler sur France.
Oui, on dit travailler sur France ou travailler sur Suisse. Oui, ils parlent comme ça. Il y a des petits changements, en fait, niveau vocabulaire ici. Enfin, quand on vient, pour moi, dans un autre pays, on essaye de s'adapter un minimum. Donc, j'essaye de parler comme eux. Par exemple, 80, 90 et tout ça. Les ou bien aussi, si jamais. Donc voilà, enfin, on essaye de s'adapter, quoi. C'est normal, on n'est pas chez nous.
Est-ce que pour vos confrères grutiers de France, vous êtes devenu un grutier de luxe ? Par rapport à votre salaire ?
Ouais, peut-être par rapport à mon salaire, mais j'ai envie de dire, la région frontalière, surtout au niveau d'Evian, s'il n'y en a pas un des deux qui travaille en Suisse, à la fin du mois, c'est assez difficile, ou alors il faut avoir un très bon métier, bien payé, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression d'être considéré de manière un peu envieuse par des collègues qui commenceraient à avoir d'un mauvais œil tous ces Français ?
Oui, mais bon, j'ai envie de dire, dans le bâtiment en Suisse, il n'y a pas beaucoup de Suisses, en fait. Ça fait un peu comme en France. En France, il n'y a pas beaucoup de Français qui bossent dans le BTP.
Et est-ce que vous diriez que vous êtes prêt, du coup, à accepter ici, en Suisse, des salaires que des Suisses trouveraient beaucoup trop bas ?
Là, moi, je suis resté intérimaire et au début, mon salaire, mon employeur ne voulait pas forcément le mettre au niveau d'un prix suisse, quoi. Il m'avait dit oui, t'es frontalier et tout. Donc voilà, non, je me suis un petit peu battu quand même pour avoir un salaire à peu près suisse. Bon, j'ai un peu moins, je pense, mais ça va, c'est raisonnable, c'est raisonnable.
Les Français et frontaliers en Suisse seraient, de manière générale, un peu moins payés que les Suisses. Les entreprises suisses, évidemment, vont chercher de la main-d'œuvre en Bretagne, en Provence, dans le nord de la France. Et font venir des gens qui gagnaient 1500, 2000, 2500 euros. Et évidemment, quand ces personnes voient qu'on leur propose un salaire à 4000 francs, elles sautent dans un train en se disant « Youpi, c'est la belle vie ». Et ça, c'est un phénomène qui est problématique parce que, évidemment, ces personnes-là sont bien moins chers que les Suisses à compétences égales, et c'est surtout ça qui fait qu'un Suisse va estimer qu'un Français lui pique son travail. Il est moins cher.
Pour autant, les employeurs suisses continuent à employer ces frouzes, comme on dit, ces Français frontaliers. Ou est-ce que certains appliquent d'ores et déjà une sorte de préférence nationale ?
D'après mon enquête, j'ai parlé à des recruteurs, à des entrepreneurs qui, aujourd'hui déjà, se mettent à regarder à deux fois avant d'engager un Français.
Marie-Maurice, vous êtes arrivée en Suisse il y a combien de temps ?
Je suis arrivée fin 2008, donc il y a 8 ans.
Avec votre accent de Toulouse, vous n'avez jamais pu vous faire passer pour une Suisse.
Non, c'est vrai que je me fais repérer assez vite. J'ai pas perdu mon accent par un phénomène étrange, mais c'est pas grave. Je dois dire que les Suisses aiment bien les gens du Sud, donc il vaut mieux que je sois toulousaine là-bas que parisienne.
Donc vous êtes venue avec votre épouse ?
Oui, concubine, oui, tout à fait, oui. Et depuis, on a eu un petit ici.
Un petit mi-français, mi-suisse.
Oui, voilà, il va falloir qu'il s'adapte. Si, parce qu'en plus, on a à l'avenir l'idée de passer l'autre côté, quoi. Vu qu'on est tous les deux frontaliers, les horaires qu'on fait tous les deux, c'est juste, quoi. C'est difficile à tenir, quoi, sur le long terme.
Vous dites que vous aimeriez vous installer en Suisse, que vous y réfléchissez, mais est-ce que vous avez conscience aussi de la fragilité de votre situation ?
Ah oui, tout à fait, oui. Mais je pense que c'est le moment de passer l'autre côté, parce que si au cas où on ne trouve pas, ils ne peuvent pas non plus nous renvoyer aussi facilement de la Suisse que si on était frontalier, quoi. C'est plus dur de trouver du travail en tant que frontalier que si on réside dans le pays, quoi. Je sais que des fois, dans quelques cantons suisses, ils privilégiaient surtout les gens qui résidaient en Suisse, étrangers ou pas étrangers, que les frontaliers.
Et votre amie, elle a trouvé facilement un travail en Suisse ?
Oui, elle a trouvé assez facilement. Au début, elle a fait 4-5 mois de bénévolat. Elle s'est mise en tant que serveuse et après, on l'a rappelée pour travailler au vivarium de Lausanne.
Et quel genre d'animaux garde-t-elle ?
Elle s'occupe de crocodiles, de serpents, de tortues, un peu d'araignées aussi et des grenouilles exotiques.
Donc si même une gardienne de reptiles arrive à trouver un travail en Suisse, tout le monde peut trouver un travail en Suisse ?
Oui, à peu près tout le monde. Oui, il y en a pour tout le monde du boulot.
Sabine Henry, on vient de voir partir un énorme vapeur, je crois que ça s'appelle comme ça,
oui.
Un grand bateau à roues qui s'appelle le Suisse.
Le Suisse, tout à fait.
On se serait un peu cru sur le Mississippi.
Oui, c'est ça, avec Tom Sawyer. Tout à fait.
Alors depuis combien de temps, Sabine Henry, êtes-vous institutrice ici en Suisse ?
Depuis 13 ans. Et donc comme j'ai pu vous l'expliquer, au départ j'étais venue pour une année. En me disant que voilà, j'allais sûrement faire un petit peu d'expérience et puis je suis restée parce que le cadre de l'école dans laquelle je travaille est un cadre agréable avec des collègues sympathiques. Donc voilà.
Oui, vous c'est particulier, vous êtes institutrice dans une école internationale.
Oui, une école privée. Donc on a un mélange de cultures, un mélange d'enfants qui viennent de partout et je pense que c'est vraiment ça qui fait la richesse de notre école.
Là, ici, près du quai, on est sur l'allée des Belges.
Oui.
L'hôtel d'Angleterre est sur notre gauche.
Oui.
La France est juste en face et on entend parler toutes les langues.
Oui, exact. La Suisse, c'est vraiment ça. Il y a énormément de nationalités différentes qui vivent ensemble, qui fonctionnent ensemble.
La Suisse est un pays avec une très forte immigration. Le pays compte aujourd'hui à peu près 25%, un peu plus même, d'étrangers sur son territoire, ce qui est énorme. Et ça, c'est ce que mettent en avant beaucoup de Suisses aujourd'hui, qui disent « Oui, certes, on a un parti populiste, anti-étranger, à la tête de notre Parlement, mais regardez, on a 25% d'étrangers, et ça va, donc il ne faut pas en faire des caisses, disons. »
Est-ce que vous imaginez, vous y installer en Suisse, y vivre ?
Non, non, parce que ma vie familiale est de l'autre côté. Mon mari travaille en France, mes enfants sont scolarisés en France. Et c'est vrai que, voilà, il y a le côté... oui, il y a vraiment le côté familial qui est côté français, avec la scolarité de mes propres enfants en France, avec ma vie de l'autre côté, et puis effectivement le côté travail à Lausanne, en Suisse, avec des collègues suisses, avec des amis suisses aussi. Donc c'est vrai que ce ne sont pas deux mondes complètement séparés. Hein. À certains moments, les deux mondes se mélangent entre la vie de famille et la vie amicale. Mais voilà, le fait de prendre le bateau tous les matins, ce n'est pas une contrainte. Et puis le soir, c'est la même chose. C'est un moment où on peut décompresser de notre journée de travail et vraiment faire la coupure entre le monde du travail et le monde de la maison. Effectivement, ça permet de faire une bonne coupure.
Vous, Sabine, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que ce beau rêve qui dure depuis 13 ans pourrait s'arrêter brusquement ?
Alors, toujours dans l'école dans laquelle je travaille, effectivement, c'est pas du tout le cas, dans le sens où, voilà, on n'a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que dans certaines sociétés, lorsqu'il y a des licenciements, on va dire que les frontaliers sont souvent les premiers à partir. Et que du coup, c'est vrai que le statut de frontalier n'est pas forcément un statut toujours facile au niveau de l'emploi.
Vous avez dans votre entourage, parmi vos amis français travaillant en Suisse, des gens à qui c'est arrivé, ça, de se faire licencier sans préavis ?
Oui. Des gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés licenciés, effectivement, frontaliers, donc les premiers à partir, et qui sont rentrés en France, qui se sont retrouvés sans travail. Et on leur a dit, bah, effectivement, que comme ils étaient bien en Suisse, autant qu'ils restent de l'autre côté du lac. Un peu de racisme par rapport aux Français et aux frontaliers.
Les Français ne sont pas des parias quand ils vont en Suisse. Bon, ils y vont pour gagner leur vie, ils y vont pour vivre. Il n'y a pas un esprit fermé et, comme on dit chez nous en patois, tatu, hein, fermé les oreillères. C'est une vie en commun. Voilà.
Marc Francinac, vous avez pourtant entendu parler de cette histoire dans le canton du Tessin, donc beaucoup plus au sud et qui jouxte l'Italie, de ce maire qui a lancé l'idée de faire distribuer par la mairie un autocollant à tous les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent afficher sur leur voiture le nombre de frontaliers qu'ils font travailler dans leur entreprise.
Oui, non, mais il ne faut pas comparer la Suisse italienne, la Suisse de Genève, où il y avait quand même un parti qui était anti-frontalier, hein, puisqu'ils avaient fait une affiche avec des cochons noirs, des moutons noirs, des moutons blancs avec la frontière.
Le mouvement des citoyens genevois.
C'est vrai que ça pose des gênes, il faut se le dire, ça pose des gênes, surtout sur Genève. Vous prenez sur Genève, vous enlevez les frontaliers à l'hôpital universitaire de Genève, vous enlevez 80% du personnel, c'est tout. Il reste 20% de Suisses pour soigner tout le monde. Donc à un moment donné, il faut être réaliste.
Tous les rapports commandés par le Conseil fédéral, qui est le gouvernement suisse, expliquent que les immigrés et les frontaliers sont une richesse pour la Suisse, c'est-à-dire que sans eux, l'économie suisse se porterait plus mal. Les entreprises suisses ne trouvent tout simplement pas la main-d'œuvre dont elles ont besoin chez eux, sans quoi le pays n'aurait pas l'incroyable vigueur économique qu'il a actuellement. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de débat.
Le bateau de 16h30 a quitté Lausanne en donnant trois petits coups de sirène. On a vu se presser des Français qui devaient rentrer en France, alors qui, avec des trottinettes, on a vu un homme en costume très bien habillé courir, essoufflé, pour avoir son bateau. Il ne faut pas le louper, parce que je crois que les bateaux ici sont toujours très ponctuels.
Oui, ça va. Bon, après, je pense qu'il y a quelques frontaliers qui ont dû gueuler un petit peu, parce qu'avant, c'était vraiment 40-40, même s'ils ne vous voyaient courir ou quoi que ce soit, ils retiraient la passerelle et puis au revoir, fallait attendre une heure et demie. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont... Bon, ils attendent une ou deux minutes, quoi. C'est vrai qu'ils sont un peu plus cool là-dessus, quoi.
18h35, dans 5 minutes, voilà. Il part. Bon, ben, faut pas traîner.
Faut pas traîner, tout à fait.
Ça
Ça va, Nathalie? Vous avez trouvé où vous asseoir dans le bateau de 18h40?
Ça va, c'est assez facile quand même.
Là, en arrivant vous voir, vous étiez en train de faire des mots croisés avec votre voisin.
Voilà, c'est les joies des transports en commun, oui, tout à fait.
Alors là, vous cherchez quoi comme mot, là?
Écoutez, Nigo en Suisse, et il me semble que c'est Bobé. Si je ne m'abuse, voilà.
Bobé?
Bobé.
Vous ne vous êtes jamais fait traiter de Bobé à votre travail, dans votre cabinet d'avocat en Suisse?
Non. En Suisse, il y a un respect de la personnalité. On a peut-être un code du travail beaucoup plus léger qu'en France, mais le respect de la personnalité est un principe de base pour tout employé. Donc, jamais.
Est-ce que vous, Nathalie, vous avez trouvé facilement du travail ici en Suisse?
Le parcours s'est fait de manière toute bête. Mon mari est arrivé il y a 5 ans en Suisse pour y travailler. Et puis moi je l'ai suivi l'année d'après pour préparer le départ avec les enfants. Et puis effectivement, je crois que j'ai passé 3 jours à faire un CV, à le poster. Dans l'heure, j'étais contactée et puis j'ai passé mon entretien le lendemain et je commençais le lundi de la semaine qui suivait.
Attention, ça y est, on passe la frontière. Est-ce que vous le sentez, vous, tous les jours, que vous franchissez une frontière?
Oui, mais parce que de vivre en France et en Suisse, il y a des choses assez différentes, mais la passation se fait tout en douceur et c'est très agréable, si jamais.
Mais d'autant qu'il n'y a aucun contrôle d'identité, on ne nous a pas demandé nos papiers, donc on ne se sent pas tellement sur une frontière, en fait.
Oui, mais alors, comme toutes les frontières aujourd'hui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas vécu, mais il arrive souvent que les douaniers se postent d'un côté ou de l'autre. Et puis, on a eu quelques contrôles au moment des attentats de Paris en novembre dernier, où effectivement, on a dû sortir aussi la pièce d'identité, mais 2-3 fois. Mais c'est la première fois, effectivement, que moi aussi, je devais montrer mon passeport français dès lors.
Vous avez aussi, Daniel Deroulet, fait la démarche inverse, celle de vous installer en France. Le Suisse que vous êtes, l'écrivain suisse que vous êtes, a fait cette démarche-là.
Oui, parce que dans la mesure où je déteste les frontières, je me rends quand même compte que je peux plus facilement parler de la France quand je suis en Suisse et plus facilement parler de la Suisse quand je suis en France. Et ça me change le regard. Vous savez bien, quand on arrive dans un endroit, il y a quelques jours pendant lesquels on est très attentif à toutes sortes de signes qu'ensuite on considère comme tout à fait normal. Et moi, chaque fois que je traverse, même si je fais souvent chaque mois presque, je me rends compte que je revois des choses qui ne m'étaient pas visibles. C'est une démarche un peu luxueuse de ma part, mais elle me permet de voir les choses qui nous restent cachées ou qu'on cache nous sous nos propres clichés, quoi. Voilà, c'est bête à dire, mais ça casse beaucoup de clichés. Je pense que ceux qui traversent tous les jours, ils ont cette conscience-là. J'espère qu'ils ne la perdront pas.
Est-ce que vous avez le sentiment de partir de quelque part ou de revenir quelque part chez vous, qui serait un sentiment créé par la frontière?
Oui, ça c'est une question difficile parce que j'évite de me la poser. Je suis suisse par hasard. Je parle le français par hasard. On est par hasard à un endroit. Et donc, moi, la première chose que j'arrive pas, c'est être fier de mon origine. Et donc, cette question de l'identité, pour moi, je dirais que la seule chose avec laquelle je peux m'identifier, c'est un certain amour du paysage. Bien que je ne pense pas que le lac Léman, c'est le plus beau paysage du monde, mais j'ai une mélancolie quand je suis à l'autre bout du monde de voir un horizon bouché par de belles montagnes blanches. Voilà, c'est des choses qui restent, qui voilà, font partie du hasard de la naissance et donc du hasard de ce qui vous reste. Et ça, je ne le renierai en aucun cas. Et je me suis rendu compte que la neige, pour moi, c'est quelque chose d'important, ça fait partie du paysage. Mais je ne peux pas être fier de la neige, hein, d'accord. Et j'ai une question que je me pose toujours, c'est où va le blanc de la neige quand la neige fond? Vous voyez, c'est le genre c'est une question qu'on m'a posée dans mon enfance et je continue de la poser. Et quand je n'ai pas vu la neige, je me dis oui, mais le blanc, il est allé où?
La première traversée a été un peu particulière parce que je me sentais un peu comme une touriste. Donc je regardais beaucoup, je prenais des photos et je voyais qu'autour de moi, les gens n'avaient pas le même type de réaction. Ils étaient déjà un peu plus blasés en fait, parce que c'est une traversée qui était quotidienne pour eux depuis des années, j'imagine. Donc oui, c'était un peu c'était la grande découverte, la première traversée.
Vous, vous n'étiez pas là pour la beauté du lac, vous étiez là pour votre premier emploi en Suisse. Vous travaillez dans quoi ?
Je travaille en marketing dans une grande entreprise d'agroalimentaire.
Comment vous avez été accueillie par vos collègues au début, la petite Française qui arrive ?
Bah, plutôt bien, parce qu'il y avait beaucoup de Français aussi au siège où je travaille. Et puis c'est une grosse entreprise, donc c'est très multiculturel. Donc au final, une nouvelle nationalité, c'est un quotidien auquel on est tous habitués. Donc ça n'a surpris personne.
Le bateau quitte Lausanne.
Oui. C'est vrai que c'est une image que je regarde plus tous les jours maintenant, parce qu'avec la routine, j'ai mes habitudes de dormir le matin sur le bateau pour récupérer, et puis de travailler en général quand je quitte le travail pendant encore une heure. Donc c'est bien de me le faire remarquer, parce que c'est pas forcément, j'ai pas forcément toujours le réflexe de lever la tête maintenant que ça fait plusieurs années que je fais ce trajet quotidien.
Il vous est déjà arrivé de ne pas refaire le chemin jusqu'en France, d'y dormir quelques jours et donc là être vraiment en relation avec des Suisses au quotidien ?
Il m'est arrivé d'avoir une relation d'un peu plus de 2 ans avec une personne étrangère mais vivant en Suisse et donc de passer plusieurs nuits par semaine chez cette personne. Les relations étaient un petit peu moins cordiales à ce moment-là. La concierge de l'immeuble a demandé à la régie de convoquer mon ami qui s'est fait entendre qu'il y avait une personne qui était là très régulièrement et j'imagine que dans leur imaginaire, elles ont pensé que je squattais un petit peu là alors que c'était clairement pas le cas. Mais j'étais assez surprise de cette surveillance en fait qu'il y avait au sein de cet immeuble-là et donc je me suis dit qu'il y avait quand même une surveillance assez accrue côté suisse et puis en discutant avec des collègues, j'ai compris que c'était aussi, ça faisait partie de la mentalité suisse, de faire un peu cette surveillance au sein de la communauté, ce qui permettait de voilà, garantir la propre sécurité des personnes et d'éviter des troubles potentiels. Quand on est d'une culture un peu différente, comme la culture française, ça peut paraître un petit peu intrusif, on va dire.
Charlotte, est-ce qu'à votre travail, vous avez cette impression qu'ont plusieurs frontaliers, apparemment, d'être toujours un peu sur la sellette ?
Moi, j'ai eu ce doute au départ. C'est même la seule chose qui m'aurait fait hésiter à accepter le poste, étant donné que j'avais entendu qu'en Suisse, on pouvait effectivement partir du jour au lendemain, être remercié par son employeur et devoir partir. Maintenant que je suis dans ma société depuis 3 ans et demi et que je vois que ça se passe bien, c'est pas une crainte au quotidien et je pense pas que ce soit lié à la situation de frontalier ou non.
On parle la même langue, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes envies, on fait les mêmes choses. Vraiment, en 25 ans, j'ai jamais eu cette sensation d'être un étranger. Alors bien sûr qu'après, il y a toujours les petites blagues ou les petites choses, mais c'est normal. Et nous sommes vite repérés en tant que Français.
Quelle blague !
Notre côté un petit peu râleur, un petit peu donneur de leçons, c'est des petites choses comme ça, mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai jamais senti d'animosité par rapport à ça, même dans une période où, qui est un petit peu plus tendue. C'est tendu en France, mais c'est un petit peu tendu dans tous les pays, et en Suisse aussi. Donc je trouve que c'est tout à fait normal de donner la préférence, on va dire, nationale pour le travail.
Marie Maurice, en tant que correspondante du journal Le Monde en Suisse, vous avez souvent à faire des articles politiques sur deux partis populistes. En tout cas, l'un est populiste, l'UDC, l'Union démocratique du centre. Un autre parti est apparu plus récemment, le mouvement des citoyens genevois, le MCG. C'est vraiment à Genève, en fait, que se cristallisent les tensions entre Suisses et frontaliers.
Genève, c'est vraiment un cas à part parce que c'est un très petit canton, un canton-ville qui est complètement encastré dans la France. Et puis Genève a un rapport aux Français qui est aussi dans l'histoire. Il faut se souvenir de l'escalade qui est cet épisode grand mythe à Genève. Pendant l'escalade, ce sont les Genevois qui ont repoussé les Savoyards qui tentaient de les envahir. Les Savoyards grimpaient au mur pour rentrer dans la cité de Genève. Et les Genevois se sont défendus en leur jetant des marmites bouillantes sur la tête. Donc déjà à l'époque, on sent que le Savoyard, et puis aujourd'hui par extension le Français, est un peu un envahisseur. Mais c'est vrai que c'est à Genève que les tensions envers les Français et les frontaliers sont les plus vives. Tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de frontaliers qui passent la frontière chaque jour. Ce qui crée déjà une conséquence concrète, un peu bête à dire, mais ce sont les embouteillages qui posent beaucoup de problèmes aux Genevois. Et donc c'est assez naturellement qu'est né ce parti populiste, le mouvement citoyen genevois. Et ce parti a joué sur ce sentiment, a mis des mots dessus et a exacerbé, on peut le dire, les tensions et les méfiances entre Français, frontaliers et Genevois.
Tous les Français qui viennent travailler en Suisse ont une bonne raison de le faire, mais tous ne sont pas aussi bien accueillis que ceux que nous avons rencontrés sur les navettes, sur le lac Léman. Et c'est ce que vous avez voulu raconter dans votre livre « Bienvenue au paradis ». Alors, vous employez le mot de racisme. Évidemment, ça a fait débat en Suisse.
J'utilise le mot de racisme parce qu'il est défini comme une série de clichés négatifs et d'adjectifs péjoratifs associés à une catégorie de personnes. Et en Suisse, on associe aux frontaliers souvent les caractéristiques de arrogants, appâtés par l'argent, grande gueule, râleur, revendicateur. Et c'est pour ça que j'utilise et que j'assume ce terme de racisme. Beaucoup de frontaliers expliquent que parfois, sur la route, quand ils conduisent avec leur voiture immatriculée en France, ils se font klaxonner. Certains se font rayer la voiture ou crever les pneus, dans le pire des cas. Donc ça, c'est d'abord sur la route. Après, au travail, je dirais que le frontalier doit essayer de parler plus bas que les autres, éviter de se faire voir trop parce qu'il est très vite catalogué comme quelqu'un qui veut monter dans la hiérarchie et puis dominer les autres. On est traité de sale français, il peut arriver d'être traité de sale frontalier. Le travail collectif avec certains Suisses se passe pas forcément bien, ça donne lieu à des incompréhensions ou à des disputes. Et puis, il y a une différence entre blaguer sur les grèves en France incessantes, « Ah, tu vas pas pouvoir partir un week-end parce que chez toi, de toute façon, il y a encore la grève » ou « Pourquoi tu pars si tôt ?»« Vous les Français, les 35 heures ?» Enfin bon... Alors ça peut être assez de bonne guerre, je dirais, sauf quand c'est répétitif, puis quand ça fait 10 ans qu'on est frontalier, que ça fait 10 ans qu'on entend les mêmes choses, c'est vrai que bon, on commence à se dire « ça va, 2 secondes ». Et puis en fait, la vraie question qui est posée par rapport à ça, c'est quel statut les Français et les frontaliers ont dans l'économie suisse. Ça se passe d'ailleurs en ce moment, puisque le taux de chômage augmente un peu en Suisse. Il y a une légère récession en Suisse, et puis le taux de chômage a explosé chez les frontaliers, évidemment, qui sont les premiers concernés. Donc c'est quand même un climat qui n'est pas celui de la boutade. C'est plus que la boutade. Et puis ce MCG, ce parti populiste à Genève en tout cas, a fait des campagnes anti-frontaliers en voulant élire et des villes sans garanties sans frontaliers, 0% frontaliers. Il y a eu un climat de débordement verbal très fort et qui fait que les frontaliers aujourd'hui se sentent un petit peu dans leurs petits souliers. La Suisse a voté en 2014 par référendum une loi qui établit le retour des quotas migratoires. C'est l'Union démocratique du centre, l'UDC, qui a lancé ce référendum et qui, à la grande surprise, a été voté par la population. Ce référendum n'a pas été encore appliqué, mais en tout cas, pour être conforme à la volonté populaire, la Suisse devrait en partie rétablir des quotas migratoires. Et ça, ça va changer énormément le quotidien des Français et des frontaliers qui souhaitent travailler en Suisse. C'est évident.
Vous pensez, Charlotte, que ça y est, on a franchi la frontière ?
Alors, c'est pas souvent une question que je me pose. Là, je pense qu'on est vraiment au milieu... On est vraiment quasiment à équidistance des deux bords. Donc on n'est ni en France, ni en Suisse. On est vraiment, voilà, dans une zone neutre, j'ai envie de dire.
Sur les cartes, à l'école, on voyait les cartes du lac Léman avec un trait qui séparait le lac en deux.
Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on le représente souvent. Là, je pense qu'on doit être sur la ligne, à mon avis.
Pour moi, il sera vraiment mon lac quand il n'y aura plus de frontières du tout. Quoi.
Daniel de Roulet, vous n'aimez pas les frontières. C'est Régis Debray qui écrit que c'est aux interfaces qu'on trouve les plus débrouillards. Que, en fait, les frontières créent des hommes d'un autre bois.
Oui, je crois que c'est vrai que dans l'état actuel des choses, la frontière oblige à être... accepter ce qu'il y a de l'autre côté, donc à avoir deux portables dans sa poche, quoi. C'est-à-dire être capable de communiquer d'un côté et de l'autre, et de savoir qu'est-ce qui se fait d'un côté et qu'est-ce qui n'est pas possible de l'autre, etc. Donc c'est vrai, ça développe. En même temps, quand même, les frontières, maintenant, on en parle un peu facilement, quoi. Si je prends ne serait-ce qu'à la Première Guerre mondiale, dans ma propre famille, la frontière, ça a été un drame terrible. Mon grand-père était d'une famille de trois garçons et sa mère avait envoyé un des fils émigrer aux États-Unis. Un autre était en France, avait fait carrière dans l'armée d'ailleurs. Et puis le troisième, c'était mon grand-père en Suisse. Et puis la guerre a commencé et à ce moment-là, l'arrière-grand-mère... Et elle a eu très très peur que ses fils se bagarrent entre eux sur la frontière entre la France et la Suisse. Alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'en 1915, celui qui avait émigré aux États-Unis a eu un accident de voiture et est mort. Donc il lui restait deux fils et ils étaient quasiment les fusils pointés l'un contre l'autre des deux côtés de la frontière. Alors il y a eu cette très belle chose, c'est une photo de famille qu'on a gardée, que je possède, pour prouver à leur mère qu'ils n'allaient pas s'entretuer. Le français avec son habit de je sais pas qu'est-ce qu'il était, colonel, et de l'autre côté le suisse dans son habit, alors lui de simple piou-piou comme on dit, troufion. Eh bien ils en font une photo l'un à côté de l'autre et on voit qu'ils ont chacun le brassard noir qui marque la mort de leur frère à la manche, et ils ont envoyé cette photo à leur mère comme une preuve, quoi. Je trouve, voilà, ça montre que c'était pas si facile d'habiter d'un côté ou de l'autre, quoi.
Daniel de Roulet, Nationalité frontalière, le titre de votre roman, c'est ce qui est écrit sur votre carte d'identité ?
Non, malheureusement, sur ma carte d'identité, c'est écrit que je suis né dans tel patelin, en Suisse, etc. Non, la nationalité frontalière, c'est une expression de Julien Gracq qui voudrait que ce soit le statut de ses personnages, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois d'un côté et de l'autre. C'est une bonne manière de voir les choses. C'est la frontière est une nationalité, d'une certaine manière.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, prochaine station, tenons les bains. Prochaine station, tenons les bains. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et faites attention de rien oublier à bord. Merci.
Jeu de frontière entre la France et la Suisse. Julie Gacon, Yvon Croisier. Avec Daniel de Roulet, auteur de Nationalité frontalière aux éditions Métropolis. Marie Maurice, correspondante en Suisse du journal Le Monde, auteur de Bienvenue au paradis chez Stock. Marc Francina, maire d'Évian. Sabine Henry, institutrice. Sébastien Jobard, Grutier. James Picot, du CHU de Lausanne. Nathalie, assistante dans un cabinet d'avocats. Et Charlotte, cadre dans un grand groupe d'agroalimentaire. bibliographie sur le site de France Culture. Frontalier, habitant des marges, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. C'est un bateau piloté par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier pour plonger sous la surface, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le ferry ou nous réécouter côté Suisse. C'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et la semaine prochaine, nous mettrons les espions sur écoute.